c'est votre émission La Voix des Notaires sur Radio Grand Ciel. Je m'appelle Franck Granger, je suis notaire à Chartres et vous me retrouverez tous les 15 jours sur Radio Grand Ciel pour une émission consacrée à l'activité des notaires, le droit de l'immobilier, le droit de la famille, le droit de l'entreprise. J'ai cette année pour ambition de faire des émissions qui soient pratiques en abordant chaque semaine, enfin tous les 15 jours, un point pratique que vous pourrez rencontrer dans votre quotidien. Cette émission aujourd'hui va vous permettre de répondre à une question que nous avons très souvent dans nos études. Comment fait-on pour aménager ses combles en chambre ? Il arrive très couramment que des personnes achètent une maison qui soit de plein pied et aient pour ambition d'aménager l'étage quand la famille s'agrandit. Tout d'abord, qu'est-ce que sont que les combles ? On appelle comble le volume qui est compris entre le plafond du dernier niveau et la toiture du bâtiment. Aménager les combles nécessite des autorisations d'urbanisme d'une part et le cas échéant, l'accord de la copropriété lorsque vous en faites partie. Concernant le droit de l'urbanisme, pour savoir quelles sont les autorisations à demander, faut-il une déclaration préalable, qui est une déclaration légère, ou un permis de construire ? Pour aménager ses combles, il faut connaître la nature des travaux à réaliser. Quels sont les travaux que l'on entreprend le plus généralement ? Modification de la charpente, création ou modification du plancher, création de fenêtres de toit, trémie, escalier d'accès, cloison, porte, isolation, électricité, revêtement de sol, carrelage, peinture, papier, vraiment la création d'une pièce nouvelle. Vous allez être soumis à une déclaration préalable, c'est-à-dire une autorisation légère, c'est-à-dire que juste une déclaration de ce que vous voulez faire, si vous faites les travaux suivants. Si vos travaux créent entre 5 à 20 mètres carrés de surface de plancher, d'accord, ou portés à 40 mètres carrés si vous êtes dans une zone urbaine couverte par un plan d'urbanisme ou un document assimilé. Il faut savoir qu'en général, on aura besoin de cette déclaration lorsque vous changez la destination d'un bâtiment, par exemple création d'un local commercial ou la création de fenêtres de toit. Si vous faites uniquement des travaux d'aménagement intérieur, il n'y a pas d'autorisation à demander à mon sens, sauf à déclarer à la mairie et à la fiscalité que vous avez créé une pièce de plus pour que les valeurs cadastrales de votre bâtiment soient mises à jour. Le permis de construire. Un permis de construire pourra notamment être exigé pour des travaux plus lourds lorsque vous allez créer une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés, si vous allez modifier les structures porteuses ou la surface du bâtiment avec éventuellement un changement de destination. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous êtes dans un bien qui est inscrit au titre des monuments historiques, il y aura toujours besoin d'un permis de construire car l'administration va vouloir vérifier que vous respectiez bien les fondamentaux de la base de ce bâtiment. Petit rappel, il est important de savoir que la surface de plancher dont je vous ai parlé, ça correspond à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sur une surface supérieure à 1,80 m de hauteur. C'est-à-dire que sont donc exclues les épaisseurs correspondant à l'isolation, mais la surface de plancher, quand vous n'avez pas une hauteur d'1,80 m, n'est pas concernée. Maintenant, au niveau des normes d'habitabilité et de construction. Vous avez quelquefois le projet d'aménager ses combles pour loger un de vos enfants, mais quelquefois pour servir d'habitation en vue de la louer à un étudiant, par exemple. Et bien, sachez que dans ce cas-là, il faut respecter certaines normes d'habitabilité et de construction. Il faut savoir que les différentes lois, la loi Allure qui a suivi d'autres lois, ont voulu travailler sur les notions de logement décent et il y a maintenant des lois qui vont éventuellement punir une personne qui mettrait à disposition des locaux à usage d'habitation qui ne soient pas décents, qui ne fassent plus l'objet de ce qu'on appelle un logement qui correspondrait aux normes d'habitabilité minimum. Alors, lorsque vous voulez louer, ça c'est important parce que si jamais vous le faites pour vous ou pour un de vos enfants, c'est-à-dire que ça reste dans la famille, il n'y a aucune obligation là-dessus. Par contre, si jamais vous les mettez à disposition d'un tiers, il faut que la superficie de ce que vous allez louer ait une superficie minimum de 14 mètres carrés ou alors un volume habitable inférieur, enfin qui soit supérieur à 33 mètres cubes. Il faut que vous ayez au moins une installation d'alimentation, d'évacuation des eaux usées. et il faut que vous ayez accès à la fourniture de courant électrique. Ça peut paraître anodin, mais on s'est aperçu que par le passé, il n'y avait pas toujours ce type de confort dans les logements qui étaient mis à disposition, notamment pour des étudiants. Pour vous donner le caractère impératif de ces normes, je vais vous citer le texte qui dit que, est puni d'emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 75 000 euros, les personnes qui mettent en vente, location, à disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation ne provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions. Donc vous vouliez par exemple diviser un bâtiment en copropriété, vous avez un immeuble de rapport, vous voulez le diviser pour le vendre par lot. Il faudra que vous soyez très attentif, mais le géomètre le sera et le notaire aussi, à ce que tous les lots que vous allez créer en vue de la constitution de logement puissent correspondre à cette notion de logement décent. Dans le cas contraire, vous pourriez être condamné à ces amendes forfaitaires et ou alors vous devrez conserver ces logements pour votre usage personnel, mais en aucun cas ils ne pourraient être loués. Ces normes impératives vont s'appliquer à tous les logements loués comme résidence principale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le logement doit également disposer d'au moins une pièce principale, avec une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond de 2,20 mètres, ou un volume habitable d'au moins égal à 20 mètres cubes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que ce soit un bâtiment, un logement dans lequel on tienne au moins un minimum debout. Voilà, nous allons faire une petite pause. Bien, c'est toujours Franck Granger sur les ondes de Radio Grand Ciel. C'est l'émission La Voix des Notaires. Et nous parlons aujourd'hui des différentes législations respectées lorsque l'on veut aménager ses combles en chambre. Nous avons vu que nous avions des obligations respectées en matière de droit de l'urbanisme. Nous avions après des obligations à respecter concernant les normes d'habitabilité et de construction. Alors, bien sûr, ces normes dont je vous parle sont les normes qui doivent être respectées, mais dans la majorité des cas, lorsque vous avez déjà des fenêtres de toit, lorsque vous avez déjà un plancher, lorsque vous ne souhaitez pas mettre en location ces combles, vous aurez la possibilité d'être dispensé de ces autorisations. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui va se voir de l'extérieur, la création d'un Velux, la création d'un escalier extérieur, devront donner lieu, évidemment, à au moins une déclaration préalable. Si vous ne faites que de l'aménagement intérieur dans une maison individuelle, vous pouvez être dispensé de toute autorisation. Prenez toutefois garde à bien aménager des locaux qui ont la notion de logement décent si jamais vous voulez les mettre en location, notamment pour aménager une chambre d'étudiants. Alors là, nous étions dans des bâtiments qui étaient des bâtiments individuels. Vous pouvez être propriétaire d'un bien qui soit en copropriété ou d'une maison qui fasse partie d'un lotissement. Si vous êtes en copropriété, il existe différents éléments à vérifier avant d'entreprendre tout travaux quand le bien est en copropriété. Il faut notamment vérifier si les combles sont des parties privatives. Il faut que vous alliez consulter le règlement de copropriété Éventuellement, vous vous faites assister de votre notaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une copropriété, vous avez des parties privatives et des parties communes. Les parties privatives sont les parties dont vous avez un usage privatif. Je prends l'exemple d'une cave, d'un appartement, d'un grenier où vous avez la clé et il n'y a que vous qui pouvez y entrer. Les parties communes sont les différents éléments de structure, la toiture, le gros œuvre, mais également les éléments desservant les parties privatives, les couloirs, les escaliers, les paliers. Si vous voulez aménager une partie, il faut bien vérifier que ce soit une partie privative, qui fasse bien partie de votre lot. Nous avons de nombreux exemples où il faut quelquefois rendre privatif une partie qui était commune, c'est-à-dire créer un lot pour que le syndicat des copropriétaires vende cette partie qui était commune au propriétaire pour qu'il puisse aménager un palier qui était par exemple privatif, qui était commun à plusieurs greniers privatifs en vue d'en faire un appartement. Donc bien vérifier d'abord si l'endroit où vous voulez aménager est une partie privative. Ensuite, il faut vérifier que l'aménagement est compatible avec les dispositions du règlement de copropriété. Si vous avez un règlement de copropriété qui va dire que les combles ne peuvent être aménagés, ça sera quelque chose qui va freiner votre projet, sauf à modifier le règlement de copropriété. Il faut également vérifier que l'aménagement soit compatible avec la destination du bâtiment. Si vous avez un bâtiment qui n'est que professionnel, qui n'est que commercial, vous aurez du mal à aménager les combles pour en faire un logement, sauf à modifier la destination du bâtiment, ce qui n'est jamais évident. Vous devez vérifier également que l'aménagement n'entraîne pas une modification de la répartition des charges de copropriété, donc des tantièmes. C'est quelque chose qui est courant. Imaginons que vous ayez un simple grenier et que vous veniez à le transformer en appartement. Il est évident que vous allez apporter du confort, vous allez apporter de la noblesse à votre lot. Le géomètre qui va modifier éventuellement le règlement de copropriété va sans doute donner plus de tantièmes à votre nouveau lot, ce qui va d'ailleurs faire baisser les tantièmes des autres lots, ce qui ne sera pas pour déplaire aux différents copropriétaires, mais c'est quelque chose que le notaire et le géomètre vont vérifier avant de faire la modification. Si jamais, comme je vous ai dit, les combles sont des parties communes, eh bien il faudra d'abord acheter ces combles à la copropriété, créer le lot avec l'intervention d'un géomètre expert et du notaire pour faire modifier l'état descriptif de division en vue de vous donner un lot qui soit privatif, dans lequel vous aurez un accès qui vous sera exclusif. Dans l'hypothèse maintenant où vous êtes en lotissement, il existe des éléments à vérifier avant d'entreprendre les travaux quand le bien est en lotissement. Notamment, il faudra vérifier si l'aménagement des combles est compatible avec les servitudes éventuelles ou avec les règles d'un cahier des charges du lotissement. Il est très peu probable que le cahier des charges du lotissement interdise ou restreigne votre droit d'aménager des combles. C'est toutefois quelque chose qu'il faut vérifier car vous avez certains cahiers des charges de lotissement qui précisent que tous les bâtiments ne devront être que des bâtiments de plein pied, qu'il ne devra pas y avoir de fenêtres de toit, de lucarnes ou de vélux. C'est un point à vérifier. Lorsque vous avez acheté le terrain à bâtir ou lorsque vous avez acheté la maison achevée, lorsqu'il y avait un cahier des charges, le notaire a dû vous donner communication du règlement du lotissement et du cahier des charges. Il vous suffit de vous référer à votre titre de propriété pour voir s'il n'y a pas de clause qui serait restrictive qui viendrait restreindre la possibilité pour vous de le faire. En général, ce type de clauses, comme elles sont importantes, font l'objet d'un appui par le notaire au moment de votre acte d'achat. Donc je pense que vous avez assez peu de surprise de voir l'existence de telles clauses restreindre votre projet. Voilà, donc c'était Franck Granger dans La Voix des Notaires. Nous nous retrouverons dans 15 jours pour une nouvelle émission. Vous nous retrouvez tous les mercredis à 14h30, le samedi à 15h15 et le mardi à 12h. Vous pourrez également écouter nos émissions en podcast sur le site de la radio radiograndciel.fr. Merci, à bientôt.